おかしい、おかしい。おかしい。
Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 4 juillet 2008. Comme vous le savez, dans cette émission, nous analysons avec des confrères quelques grands faits d'actualité de la semaine. Nous en avons choisi trois. Jean-Pierre Bemba sera aujourd'hui pour la première fois devant ses juges à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. C'est déclaré jeudi à 11h45 heure de Kinshasa qu'il est arrivé au centre des détentions de la Cour pénale internationale. Comme deuxième thème de cette émission, nous parlerons de l'affaire Thomas Lubanga. Le dernier sera finalement jugé, comme l'ont affirmé jeudi le président et les procureurs de la CPI. Pour rappel, mercredi dernier, le juge de Thomas Lubanga avait demandé sa mise en liberté provisoire, faute de preuves suffisantes pour le juger. Enfin, nous parlerons dans notre troisième thème des 48 ans de l'indépendance de la RDC, célébrés le lundi 30 juin dernier. Nous en discutons avec une consoeur et deux confrères, Claudine Bombo, journaliste au sein du quotidien de l'Observateur, sa récente ici à Kinshasa, Thierry Lédica, rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal King et maintenant à partir de Kinshasa, et depuis Chikapa au Kasaï occidental, au téléphone intervient notre confrère André Romain Kambala Dilolo, il est journaliste au sein de la chaîne de radio-télévision Kasaï Horizon, KHRC, station de Chikapa. Pour commencer cette émission, je voudrais simplement signaler à nos auditeurs qui n'entendront plus une voix sur les antennes de Radio Capi. C'est celle de notre confrère Jean-Claude Bissiabo de la rédaction de Radio Capi Bounia. Il a été inhumé aujourd'hui dans cette ville. Il est mort le dimanche 29 juin dernier au centre médical de Kinshasa. Que son âme repose en paix. Comme nous le disions dans le sommaire de cette émission, Jean-Pierre Bemba, leader du MLC, va comparaître pour la première fois devant ses juges aujourd'hui à La Haye aux Pays-Bas. Il est poursuivi par le procureur de la CPI pour 5 chefs d'accusation de crimes de guerre et de 3 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. Il est notamment soupçonné de viols, tortures, traitements dégradants, pillages et meurtres commis par ses hommes en Centrafrique en 2002 et 2003. Ce transfert, bien sûr, suscite évidemment des réactions au sein de son parti. Les membres du MLC se disent choqués, mais pas du tout surpris par le transfert de leur président à La Haye. Sam Bokolombe, cadre de ce parti, estime pour sa part que Jean-Pierre Bemba peut maintenant fournir des preuves de son innocence devant les juges de la CPI. Sam Bokolombe est au micro de notre confrère Axel Gonjo.
Plus sincèrement, Jean-Pierre Bemba nous a choqué, naturellement. Néanmoins, on s'y attendait, lorsqu'on tient compte des circonstances de son arrestation, les circonstances que nous pouvons rocambolesques. Nous sommes confiants quant à la suite, puisque nous savons, non seulement qu'il est présumé innocent, mais il est effectivement innocent, et que devant ses juges, il va devoir le convaincre dans ce sens.
On avait beaucoup bataillé pour qu'il puisse être libéré provisoirement. Vous considérez que c'est un échec de cette bataille?
C'est pas un échec, c'était juste une question. Le principe, ce n'était pas pour se soustraire à la juridiction pénale internationale. C'était juste une question de principe. Le principe de la liberté, on ne voyait pas l'intérêt qu'il y avait à l'arrêter et à le contraindre d'aller de la sorte devant ses juges. C'est quelqu'un qui avait hâte d'ailleurs d'aller comparaître et il a toujours été exprimé même à ses avocats.
De son côté, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'ONG même qui avait enquêté et déposé plainte contre Jean-Pierre Bemba à la CPI, se dit satisfaite de son transfert à la Cour pénale internationale. Pour cette ONG, les victimes des atrocités commises en République centrafricaine peuvent désormais espérer obtenir réparation. Écoutons Dismas Kitenge, vice-président de la FIDH, au téléphone de notre confrère Jean-Claude Ntumba Kamanga. Il était dans l'émission Dialogue entre Congolais du jeudi dernier.
Le sentiment de satisfaction. Des satisfactions d'abord à l'épuisement de procédures en justice belge et satisfaction que la cour que nous avons saisie, à laquelle nous avons transmis ces informations sur ces graves crimes qui rentrent de sa compétence, finalement vient d'être saisie. Sentiment de satisfaction pour les victimes. Hein. Les victimes qui finalement voulaient que la CPI puisse être saisie et qu'elle puisse poursuivre toutes les personnes qui ont commis ces crimes-là. Et enfin, notre sentiment, c'est le sentiment d'attente que la justice soit rendue pour ces victimes-là et que également la répression contre tous les auteurs des crimes qui ont été commis en Centrafrique.
Voilà, donc bonsoir Thierry Lebita.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant partir de Kinshasa. Comment interprétez-vous cette première comparution de l'ancien vice-président de la République qui était Jean-Pierre Bemba pendant la transition?
C'est une bonne chose parce que beaucoup de choses ont été dites autour de cette arrestation du sénateur Jean-Pierre Bemba. On n'a pas entendu malheureusement le dire, mais tous ceux qui l'ont vu ces derniers jours ont dit qu'il était serein et qu'il n'attendait que d'être reçu à la haie, mais il voulait peut-être qu'il soit reçu d'une autre façon en étant un prévenu libre. Cela n'est pas arrivé, mais à Saint-Étienne, c'est une bonne chose qu'il soit aujourd'hui à la haie. J'espère qu'il aura le moyen pour se défendre, pourquoi pas se disculper.
Bonsoir Claudine Bombo.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Observateur, paraissant à qui je fais la même question. Votre réaction par rapport à cette première comparution de Jean-Pierre Bemba devant les juges de la CPI?
Oui, j'ai vu dans le même sens que Thierry, et le moment est arrivé où nous devons maintenant savoir la vérité sur ce qui s'est passé réellement. Parce que tout le monde condamné, tout le monde, on a dit beaucoup de choses sur Jean-Pierre Bemba, et nous sommes fiers de l'écouter cette fois-ci. Et notre souhait même est que ce procès-là soit trop retransmis en direct, si c'est possible.
Voilà, nous avons également en ligne depuis Jikapa, au Café Occidental, notre confrère André Romain Kambala-Dilolo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein de la chaîne de radio-télévision Kasaï Horizon, KHRT, station de Jikapa. Je vous pose aussi la même question. Votre réaction par rapport à cette première comparution?
Oui, c'est la chose qu'ont entendu par les Congolais. Du moment où l'on sait que quand Jean-Pierre Bemba a été attendu à Bruxelles, autant de démarches ont été menées pour une liberté provisoire, chose qui n'est pas arrivée, et on l'a accusé de tout. C'est vrai, il faut qu'il passe devant les juges, qu'on sache le juste comment est-ce qu'il va se blanchir, s'il peut se blanchir, ou s'il ne s'en tient pas, comment est-ce qu'on va passer à la phase prochaine.
Merci beaucoup. J'ai sous mes yeux quelques journaux quinois qui sont parus aujourd'hui. Il y a par exemple le palmarès qui titre à la une en attendant la première audience aujourd'hui, révélation sur le transfert de Jean-Pierre Bemba à la CPI. J'ai également sous mes yeux la tempête de tropique de ce vendredi qui titre à la une, transféré hier aux Pays-Bas, Jean-Pierre Bemba devant les juges de la CPI cet après-midi. À peine arrivé à la haie, le sénateur fera sa première comparution. Et j'ai également l'avenir de ce vendredi à la une, on y lit, Jean-Pierre Bemba à la haie, Human Rights Watch exige que les crimes du MLC en RDC soient aussi pris en compte. Enfin, j'ai la référence plus de ce vendredi qui titre à la une, depuis hier jeudi 3 juillet 2008, Jean-Pierre Bemba transféré à la haie, la CPI veut le juger pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont des viols et des meurtres commis par ces hommes en Centrafrique en 2002 et 2003. Je reviens à vous, Thierry Lebita, vous êtes rédacteur en chef de Canal Kin, une chaîne de télévision proche de Jean-Pierre Bemba, si pas lui appartenant. On a suivi un cas avec le MLC, M. Bokolombe, qui estime que le MLC s'y attendait un peu, disons ce transfert, c'est le terme consacré à la CPI. C'est une situation rocambolesque et que Jean-Pierre Bemba est innocent. Il avait lui-même hâte d'y aller pour prouver son innocence. Comment interprétez-vous cette position dans le cadre du MLC?
Comme je l'ai dit tantôt là, c'est une position que M. Sambo Colombe n'est pas le premier à exprimer au nom de leur parti. Tous ceux qui ont vu, comme je l'ai dit tantôt, le sénateur Jean-Pierre Bemba, il y a de cela un mois depuis que cette affaire est arrivée, ont témoigné qu'il était serein et qu'il attendait d'aller au niveau de la haie. Ce n'est pas seulement un mois, parce que il faut pas se faire semblant de croire que l'arrestation de M. Jean-Pierre Bemba, il y a de cela un mois à Bruxelles, était une surprise pour lui. Cela fait plus de 4, je crois, plus de 5 ans que le monsieur savait qu'il s'était passé des choses à Bangui et que c'est des choses qu'il devait justifier tôt ou tard. Tant qu'il était vivant, un jour ou un autre, il devait être appelé pour répondre. Comme ça, je me dis qu'il a toujours été prêt et cette occasion est la bonne pour lui. Mais quand M. Sambo-Lombe parle d'une histoire au Cambodge, c'est peut-être par rapport à tout ce que tout le monde peut s'imaginer, mais que beaucoup n'arrivent pas encore à dire sur la place publique. Je rappelle, on est là dans une tribune entre confrères journalistes. Nous savons qu'il y a même des confrères d'ici Kinshasa qui ont joué un rôle, je ne sais pas de quel niveau. On sait qu'Éric Rouge-Bert, M. Jean-Pierre Bemba, tout le monde connaît. Non, je ne voudrais pas rappeler ce qui s'est passé, je ne me permets pas de citer de nom, mais il y a un journaliste de la place qui se tait et qui a trouvé des moyens pour prendre un avion, pour aller à Bangui, pour tourner des images, je ne sais pas pour qui. Et plus tard, je me rappelle bien le MLC, aujourd'hui, le MLC n'en parle pas assez, je pense que c'est par une volonté de faire que la justice fasse son travail et le bon droit, dire le bon droit. Mais sinon, il y a 2 ans, moi je me rappelle que M. François Mamba l'avait dit, le secrétaire général du MLC à l'époque, qu'il connaissait, qui a financé ce voyage.
Mais est-ce que vous pensez que ce voyage aura influé sur le travail de la Cour pénale internationale, le travail des journalistes?
Ce n'est pas à prendre à légère, hein. Qui a financé ce voyage, je ne sais pas pour quel but. Moi, je peux vous dire que c'était à l'époque de la campagne électorale, vous connaissez notre histoire, celle de l'anthropophagie. J'estime, moi, que cela faisait partie d'une série d'actions.
Mais la CPN ne l'accuse pas.
Laissez-moi continuer. C'est l'anthropophagie, ce qui s'est passé à Bangui, faisait partie d'une suite logique qui faisait qu'un candidat puisse perdre quelque chose. Vous rappellerez que M. Jean-Pierre va être arrivé à Lubumbashi en pleine campagne, nos amis Lunsois lui ont rappelé venez nous manger. Donc j'estime que ce qui s'est passé, la campagne par rapport à l'anthropophagie, Dieu merci que ça s'était passé plus tard, fait partie d'une série d'actions, notamment celle d'aujourd'hui à Bangui. À Bangui, les choses se sont bel et bien passées. M. Jean-Pierre Bemba a fait ce qu'il pouvait faire en écrivant notamment aux Nations Unies, mais comme le dit Sambo-Lombe, il y a une main noire.
Merci beaucoup Thierry. Claudine Lombombo, il y a aussi la FIDH qui avait enquêté en fait sur ce qui s'était passé en République centrafricaine de la part de troupes du Jean-Pierre Bemba qui se dit être satisfaite pour les victimes. Enfin, les victimes pourront trouver réparation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je crois que vraiment c'est des bonnes guerres et il faut féliciter la fédération parce que réellement il se sont passées des choses en RCA. Il se sont passées des choses, il y a eu des morts, il y a eu des victimes, il y a des gens qui sont prêts pour témoigner. Mais moi je me dis que le procès de Jean-Pierre Bemba, que les gens ne se tapent pas la poitrine pour dire que lui fait que ça va arrêter. Bien sûr, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est vrai, il doit prendre les poids de toutes ces troupes. Mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait des comparutions en cascade.
C'est-à-dire de qui voulez-vous parler?
Il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba qui a tué un RCA ou un RDC. Il y a beaucoup de gens qui ont tué des gens en Afrique.
Est-ce que Jean-Pierre Bemba tué personnellement ou c'est son fait trop?
C'est tout d'ailleurs. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs.
Vous estimez que Jean-Pierre Bemba, en tant qu'autorité morale du MLC des troupes, du MLC devra répondre devant la justice internationale?
Justement, il a tué indirectement. Il donnait des ordres. Et les soldats ne sont là que pour exécuter les ordres qui viennent du sommet.
Et pourtant, le MLC a fait le contraire en disant que comme Jean-Pierre Bemba n'était pas sur place, disons, à son corps, il n'est pas responsable de ces actes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Claude, ça n'est pas une raison qui peut tenir debout au XXIe siècle. On peut être à 8000 km de Kinshasa et on donne des ordres que les gens doivent exécuter. Vous savez que dans l'armée, la discipline est la mère. Et les troupes ne sont là que pour exécuter les ordres qui sont venus d'ailleurs. Et parmi les gens qui ont donné des ordres, Jean-Pierre Bemba est dedans. Et lui-même, il dit, il veut comparaître et il veut dire ce que je veux dire.
André Romain Kambala Dilolo, vous êtes de KCRT, une chaîne de radio-télévision de Kikapa au Kasaï occidental. Vous avez entendu notre consoeur et notre confrère, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, de la comparution de Jean-Pierre Bemba? Il est responsable, d'après vous?
Oui, écoute, Claude, il faut apprendre à apprécier que noir-noir, c'est que blanc-blanc. Moi, je crois personnellement que tout le monde est d'accord que Jean-Pierre Bemba a été en République centrafricaine. On a cité bien qu'il a été en République centrafricaine sur invitation de Hans-Félix Patate, et à ce moment-là, l'actuel président François Bozizé.
Excusez-moi, André-Romain Kambala, il a été physiquement en République centrafricaine, ou ce sont ses troupes qui ont été physiquement en République centrafricaine? Il faut
comme l'a dit. Là, Claudine, il faut que nous soyons fiers, comme l'a dit Claudine. Vous savez que les troupes ont été commandées, les troupes ont été libérées. Qu'ils soient physiquement présents en République centrafricaine, que ces troupes sont physiquement en République centrafricaine, ils commandaient ces troupes à distance. Présents ou à distance, ils ont été en République centrafricaine.
Ce qu'il faut encore prouver, ce qu'il faut encore prouver devant les juges.
Oui, effectivement, ce qu'il faut prouver, mais si jamais on peut discuter autour de sa présence physique, mais c'est bien prouvé que ces troupes ont été en République centrafricaine et elles ont fait ce qu'elles ont fait. Et là aussi, je voudrais vous rappeler un principe, si vous avez déjà lu au moins une fois les guides de la procédure de la Cour pénale internationale, on dit une phrase que j'ai retenue, que dans certaines circonstances, une personne en position d'autorité peut être tenue responsable des crimes commis par les personnes qui travaillent sous sa direction ou sous ses ordres. Ça dépasse toute interprétation. Ici, à ce niveau, on croit que les faits ou les griefs qui sont portés à son endroit, il a le temps, comme il est déjà devant le juge, de prouver qu'il est responsable ou qu'il n'est pas responsable.
Oui, nous avons également dans ce studio Thierry Lévy. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Bemba, est-il responsable de morale des actes de ses troupes en République centrafricaine, puisque l'MSC semble avoir comme argument, d'autant plus que Jean-Pierre Bemba n'était pas là, ses troupes étaient sous la disposition donc Félix Patate de son armée, donc ce n'est pas Jean-Pierre Bemba de répondre des actes de ses troupes.
Non, c'est une question assez difficile, c'est à la CPI, au niveau de la CPI, que M. Jean-Pierre Bemba pourra y répondre, et puis aussi que les juges pourront juger sa réponse, que si elle est positive ou négative. Mais tout de même, je voudrais dire deux petites choses. Déjà, Claude, merci de bien mener les débats, parce qu'en précisant que M. Jean-Pierre Bemba, pendant les 3 mois, les 5 mois des opérations au niveau de Bangui, de ses hommes, il n'a pas mis personnellement ses pieds au niveau de Bangui. Sa responsabilité, c'est en tant que chef militaire. C'est important pour tous ceux qui nous suivent, en plus. Qu'est-ce que je veux encore dire? C'est que le commandement de troupes au niveau de Bangui, c'était pas Jean-Pierre, c'était un général centrafricain. Mais qu'est-ce que je veux ajouter? Je veux dire ceci, la discussion au niveau du MLC n'est pas celle-là. Jean-Pierre était parti à Bangui, oui ou non, il y a eu des choses ou pas à Bangui. On n'est pas à ce niveau-là. On est à quel niveau? Le MLC est d'accord qu'il s'est passé des choses au niveau des Bangui. De deux, on a même fait un procès qu'on peut juger comme on veut. De trois, il y a eu des gens qui ont été délégués au niveau de Bangui, il s'agit de M. Thomas Luaka qui est encore vivant, qui était là-bas pour vérifier qui a fait quoi. Et effectivement, il a vu qu'il s'est passé deux choses. Et quatrièmement, aujourd'hui, qu'est-ce que le MSC attend? Le MSC attend que l'on puisse démontrer que M. Jean-Pierre Bemba a pris un jour son téléphone, je ne sais pas, son talkie-walkie, pour demander à ces gens d'aller violer ou de piller. Ça, je pense que c'est difficile. On est dans un contexte qui est un peu compliqué.
Les militaires, il a puni quand même ces militaires qui avaient commis les actions là-bas, Jean-Pierre Bemba.
Il a fait un procès que vous pouvez juger comme vous voulez. Il a fait un procès, il a écrit aux Nations Unies.
Quelle est l'issue de ce procès? Est-ce que ces militaires sont en prison? Dans quelle prison? Dans quelle province?
Selon ce que j'ai déjà entendu dire, il est difficile aujourd'hui de pouvoir vérifier si ces gens sont restés en prison, parce qu'après, le MLC est devenu un parti politique, les gens sont venus à Kinshasa, ils ont laissé Guado. Ces militaires, où est-ce qu'ils sont? Peut-être que ces pays rentrera vers là pour le voir. Mais plutôt, je pense que là où le procès sera un peu difficile, ce sera au niveau de démontrer que Jean-Pierre Bemba a instruit à ses troupes d'aller piller ou bien d'aller violer en Centrafrique. Jean-Pierre Bemba n'est pas allé en Centrafrique comme quelqu'un qui venait pour punir. Déjà, lui, Nguaka, il n'est pas loin des Centrafricains. Je m'imagine mal, à la personne de Jean-Pierre Bemba, d'avoir une volonté d'aller punir ses frères de Centrafrique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ceux qui connaissent Bangui, je n'ai jamais été, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu tellement grand-chose à piller. Jusqu'aujourd'hui, Bangui dépend beaucoup de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas comme nos frères rwandais qui sont venus sur la République démocratique du Congo et qui sont répartis avec des jeeps, de belles choses, ensemble.
Ça, c'est vous qui le dites,
Non, ça c'est vérifiable. Qu'on nous dise s'il y a Bangui, il y a des villas comme ici à Kinshasa, s'il y a des hameaux, il y a des belles voitures, et si à l'époque, il y en avait déjà beaucoup, je pense que non. Donc, une volonté de nuire de la part de Jean-Pierre Bemba, ça sera un peu difficile de le démontrer.
Thierry,
on va le voir.
Thierry, les bicards d'être rédacteur en chef de Canal King, une chaîne de télévision proche du MLC. Aujourd'hui, le MLC regrette d'avoir envoyé ses troupes en SP, au vu de cette affaire, Jean-Pierre Bemba.
Non, dans une certaine mesure, le MLC devait le faire parce que vous savez que c'était à l'époque de la guerre avec Laurent Désiré Kabila. Si la République africaine était tombée entre les mains d'une personne qui est le président Patassé, facilement le troupe de Laurent Désiré pouvait entrer par le Centrafrique et attaquer Jean-Pierre Bemba.
Le MLC ne regrette pas d'avoir envoyé ses troupes secourir en Chili avec tout ce corps corollaire de...
Non, ce qui est arrivé plus tard, le MLC l'a regretté, le regrette encore, mais c'était stratégique de le faire, et puis aussi, il faut compter les paramètres géostratégiques, hein, les amitiés qu'il y avait entre le président Jean-Pierre Bemba et le président Museveni, et plus encore avec le président libyen, Muammar Kadhafi, qui lui aussi soutenait le président Patassé. Mais en plus de ça, il y a aussi la présence française, je ne le dis pas encore assez, les troupes de Jean-Pierre Bemba ont pu donner une gifle, c'est pas une gifle, mais faire un peu de mal aux Français. C'est comme ça que plus tard, ils ont voulu aussi, et aussi dans leur manière, peut-être aujourd'hui aussi, continuer de faire du mal à Jean-Pierre Bemba.
Ah, cela ne vous engage que vous-même. Je vais tendre vers vous rapidement, Claudine Mbombo. Quelles pourraient être les chances de Jean-Pierre Bemba devant les juges de la Cour pénale internationale, rapidement, parce qu'on doit passer au second thème.
Ok, merci, mais j'ai vu jusque-là dans l'histoire de la CPI, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est sorti de la CPI blanchi. Et partant de ces constats-là, de cette expérience-là, je me dis, quelles sont les raisons qu'on va avancer? Jean-Pierre en a au moins pour beaucoup d'années pour se justifier.
Mais moi, que je me trompe, c'est le premier procès de la CPI, ce sera probablement celui de Thomas Lubanga.
Oui, mais avant Thomas Lubanga, il y a eu d'autres dirigeants qui ont été à la CPI, je ne me rappelle pas des noms, des autres pays, pas africains, mais européens.
Vous ne parlez pas du tribunal pénal pour la Yougoslavie ou...
Peut-être, je me suis peut-être trompée, mais je me dis, on ne va pas laisser payer avant d'arrêter quelqu'un. Je pense que là, toutes les preuves possibles, matérielles, morales, tout ça, avant d'arrêter quelqu'un. Et je me dis, je ne vois pas sortir là-bas innocent. Je ne vois pas.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est la même réaction que vous avez, André Romain Kambala à Dilolo?
Oui, Claude, je vais aborder dans le même sens que Claudine, hein, pour vous dire que quand bien même Jean-Pierre Bemba Gombo était vice-président de la République, il savait qu'on était en train d'enquêter sur tout ce que ses troupes ont dû connaître comme de vue en République centrafricaine.
Est-ce que vous lui donnez quelques chances de sortir libre après ce procès à la Cour pénale internationale?
Oh, s'il fallait vraiment lui donner la chance de sortir libre, moi je me dis qu'on ne l'arrêterait pas peut-être. Parce qu'après l'enquête, quand on passe à une phase d'arrestation, et aujourd'hui nous sommes à l'étape des comparutions, je me dis que les chances de sortir libre sont très maigres.
Merci, parce qu'il est accusé de 5 chefs de crimes de guerre et de 3 chefs de crimes contre l'humanité. Merci beaucoup. Passons maintenant à notre second thème qui concerne l'affaire Thomas Lubanga. Le président et le procureur de la Cour pénale internationale ont assuré hier jeudi qu'il n'y a plus aucun obstacle pour qu'enfin s'ouvre le premier procès de la CPI. Le président Philippe Kirch a précisé que le principal point de divergence entre la Chambre et l'accusation, celui de l'utilisation abusive selon les juges de documents confidentiels par les procureurs de la CPI, serait résolu incessamment. Il faut signaler parmi les faits importants de ces dossiers, c'est que mercredi dernier, les juges de la CPI avaient ordonné la mise en liberté provisoire de Thomas Lubanga, mais le procureur avait interjeté un appel suspensif qui a fait que Thomas Lubanga soit maintenu en prison. Une fois de plus, Thierry, cette nouvelle de possible libération de Thomas Lubanga a été interprétée par certains analystes comme la preuve de l'indépendance des juges de la CPI et que cette attitude de juge redonnait espoir à tous ceux qui doutaient de l'impartialité de ces juges. Est-ce votre point de vue?
Bon, suivant de près ce qui se passe avec M. Thomas Lubanga, on peut croire un peu à ce que vous dites, je dis seulement un peu, parce que moi je ne crois pas trop à la justice internationale. Pourquoi? Parce que au niveau national, il y a des choses que nous pouvons nous régler. Aujourd'hui, c'est une image qui me déplaît un peu de voir des Congolais applaudir que notre pays soit cité matin, midi, soir au niveau de la Cour internationale. Il me semble que la justice nationale peut bien aussi régler certaines choses. Bon,
la justice congolaise, elle est critiquée.
Elle est critiquée pour deux moyens, hormis peut-être l'affaire Jean-Pierre Bemba qui concerne la République centrafricaine, l'affaire Thomas Lubanga. Si on était un pays entre guillemets sérieux, on aurait pu le juger ici au Congo démocratique. C'est faisable. La Cour pénale internationale, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, n'est rien
Peut-être que pour supplier, là-haut, des pays comme le nôtre, là, nous n'avons pas une bonne justice. C'est vrai que les gens sont bien formés dans nos universités, ils manquent de moyens, c'est ça. Parce que, un tel cas, les Katomalobana, par exemple, si ça se faisait en France, on suggère sûr que les citoyens suisses seraient jugés au niveau de la Cour pénale internationale, je pense que non.
Est-ce qu'on peut juger ici des gens qui sont, je ne sais pas, accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité? Est-ce que notre justice est habilitée à juger ce genre de personnes?
Et pourquoi pas? Notre justice n'est pas limitée. Je dis, la justice internationale ne vient qu'à supplier là où nous sommes faibles. On voit...
Et notre justice n'est pas faible?
Non, elle est faible, entre guillemets, par manque de moyens, par manque de motivation. Si nos juges, nos magistrats, nos avocats et tout ça, ils auraient su peut-être l'une des meilleures formations en Afrique, on a des meilleures écoles de droit, l'UIKIL, l'INEDU, l'UPC maintenant qui monte. Pourquoi pas on amènerait un Thomas Lubanga, je ne sais pas, à la cour d'appel de la Gombe pour être entendu.
La RDC a ratifié le statut de Rome.
Cela n'exclut pas le fait que de crimes commis dans la République démocratique du Congo soient jugés ici.
Merci beaucoup, Claudine Bombo. Vous partagez quand même le même avis. Comment vous interprétez finalement que le premier procès de la Cour pénale internationale aura finalement lieu après toutes les tergiversations qu'on a connues et puis surtout cette décision qu'avaient prise les juges de la CPI de libérer provisoirement Thomas Lubanga parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas assez de preuves pour pouvoir les juger, que seul le procureur avait droit à certains documents jugés confidentiels, documents auxquels n'avaient pas droit les avocats de Thomas Lubanga, c'est qu'il savait que les chances étaient illégales du côté de l'accusation et de la défense.
Justement, donc, j'ai refait sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Je ne vois pas quelqu'un sortir de la CPI innocent. On peut aller de gauche à droite pour se faire des preuves. Je me dis, quand la CPI tombe sur quelqu'un, c'est qu'elle a déjà réuni toutes les preuves possibles.
Et la CPI ne peut pas se tromper?
Elle peut se tromper, mais c'est vraiment la marge est très minime. La marge est très minime. Elle peut se tromper, on ne refuse pas. C'est un travail humain, on peut avoir des erreurs, mais la marge est très, très minime. Je reviens sur ce que Thierry disait tout à l'heure. Nous avons ratifié le statut de Rome. Et parfois, la CPI peut se saisir d'office. Surtout les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, elle peut se saisir d'office. On néglige pas la justice congolaise, mais nous savons comment elle tourne. On ne peut pas nous voiler, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous savons comment cette justice tourne.
Mais il y a certains analystes aussi critiquent la CPI, d'autant plus qu'elle ne va statuer que sur des cas qui sont survenus après juillet 2002, la date à laquelle a commencé la Cour pénale internationale. Mais il y a des crimes qui ont été commis avant juillet 2002 par certains politiques qui sont à travers le pays. Mais finalement, sur le plan moral, est-ce que ça ne pose pas de problème, Claudine Bombo?
Oui, justement, vraiment, c'est notre regret à tous. On pouvait bien remonter les crimes, même vers 1997, par exemple, parce qu'il y a eu des crimes plus graves que ceux qui s'est passé en 2003. C'est un regret, mais que voulez-vous, la CPI a commencé à cette date-là.
Parce qu'il n'y a pas que Thomas Lubanga qui a enrôlé des enfants, parce qu'il est accusé principalement pour enrôlement des enfants. On se souvient de l'AFDEL, quand les troupes de l'AFDEL sont arrivées ici, il y avait le fameux Kadogo que tout le monde, que le monde entier a vu quand même.
C'est pourquoi je te disais, nous attendons des comparaisons en cascade sur les cas de la RDC.
Voilà, nous nous rendons à Chikapa, d'où intervient André Romain Kambala-Dilolo. Comment interprétez-vous ce premier procès de la CPI qui va finalement commencer avec Thomas Lubanga et la probable libération qu'avait annoncé la Cour pénale internationale, qui avait suscité l'espoir du côté des partisans de Thomas Lubanga et le désarroi du côté des victimes des exactions faites en Ituri?
Et effectivement, c'est d'abord que le juge ainsi que c'est la partie qui défend Thomas Lubanga se suis d'accord pour gérer la petite crise qui était en train de bouger entre eux, parce que le procès risquait de paraître comme un procès fantaisiste, hein, au vu de ce qui se produisait déjà comme en France. Mais ce qu'on peut dire est que pour nous, nous croyons que si la Cour internationale arrête, comme on l'a dit, c'est comme
On ne vous entend pas très bien. Répétez, s'il vous plaît.
Oui, mais comme on l'a dit précédemment,
si la Cour parvient à arrêter, c'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées de fond en comble, et si on arrête, nous espérons qu'il y a des mobiles et des raisons très valables pour lesquelles on arrête. Si M. Thomas Lubanga peut, en se défendant, convaincre la Cour et parvenir à être libéré, ce sera de la bonne chose. Oui, je vais pas, Claude.
Est-ce que le fait que les juges de la Cour pénale internationale aient décidé mercredi la mise en liberté provisoire de Thomas Lubanga, faute de preuves, est-ce que cela donne quand même à penser que les juges de la CPI sont indépendants et qu'ils peuvent prendre des décisions de façon tout à fait indépendante, d'après vous?
Oui, bon, effectivement, ils ont le droit de prendre des décisions d'une façon la plus indépendante possible. Vous savez, on ne peut pas aller dans un procès comme celui-là, d'une personne détenue bien à la Cour en tant que nous appelons pénale internationale, et avoir des dossiers tenus pour secret, des dossiers confidentiels. Alors, s'il y a des confidences, pourquoi, sur quoi est-ce qu'on va se mettre ensemble, parce que ce qui est confidentiel appartient à celui qui détient le secret. Et là, je me dis, l'indépendance doit régner du moment où le juge peuvent dire que nous ne siégeons pas, nous demandons la liberté de notre détenu parce qu'il n'y a pas de preuve convaincante au moment où ils savent que d'autres vérités sont mises au frigo par une partie, automatiquement ils sont dans le droit de demander cette liberté.
Certaines ONG avaient relevé les conséquences néfastes qu'aurait eu la probable libération de Thomas Lubanga, notamment sur les victimes. Est-ce que vous êtes du même avis que...
Effectivement, parce que Thomas Lubanga, moi je me dis personnellement, par rapport, si jamais on a dit...
Excusez-moi, que cela aurait pu encourager d'autres politiques ou d'autres chefs miliciens à commettre des exactions contre les Congolais et à se dire que non, ben, comme Thomas Lubanga a été libéré, nous aussi on le sera si on est arrêté.
Effectivement, si on parvenait à le libérer dans les conditions comme ça, sans avoir prononcé le dernier verdict dans ce procès, c'était une façon de donner encore plus du courage à tous ces malfrats qui enrôlent des enfants dans leurs groupes armés, qui commettent n'importe quel type de bévue pour se dire, mais quand Lubanga est parti, on n'a rien foutu, et si nous y allons aussi, un jour ou l'autre, on sera libéré. Alors là, pour le victime, automatiquement, il devrait se sentir découragé et peut-être encore plus frustré.
Merci beaucoup Thierry, vous voulez ajouter quelque chose avant de passer au troisième thème?
Non, je voulais dire deux choses. Claudine, c'est qu'affirmer ce que je venais dire tantôt là, par rapport à l'importance de la justice nationale, les cas de violations qui se sont commis entre 98, 97 jusqu'à 2002, nous montrent bien que nous, Congolais, nous devons faire confiance en notre justice. Je peux, moi, en tant que citoyen congolais, si j'ai un membre de ma famille qui a été victime de ce qui s'est passé à Makobola, aller à n'importe quelle solution pénale de notre pays pour aller accuser tel monsieur politique au pouvoir ou non, je le pense. Donc il faut que nous prenions conscience que la CPI, elle est là, et d'ailleurs elle est très limitée. Elle est limitée en quoi? On a vu avec les cas Jean-Pierre Bemba, le premier mandat a été lancé pour la Belgique, ils sont rentrés pour compléter, et plus tard, même quand Jean-Pierre Bemba a été arrêté, on a vu Luis Moreno Campo ajouter d'autres charges qui n'ont constitué même pas de charges, parce que l'ensemble de tout ce qu'on accuse, M. Jean-Pierre Bemba, c'est quoi? Crime contre l'humanité, qu'on ajoute viol, qu'on enlève... La plainte reste intacte, donc on voit qu'il fait tout le monde dans tout ça.
Merci Thierry. Claudine Bombo, on va terminer ce deuxième temps avec vous. Mais que pensez-vous de certains analystes ou de certains politiciens qui disent que finalement la justice qu'exerce la CPI est une justice des vaincus? On les a entendus parler de la sorte, et qu'il n'y a que les gens qui sont en dehors du pouvoir actuel qui sont interpellés par la CPI et ceux qui dirigent actuellement, ça c'est, je les cite, hein, et qui peuvent également être interpellés par la CPI, ne le sont pas. Pourquoi?
Oui, c'est des bonnes guerres, comme je l'ai dit, mais je reviens sur ce point là pour dire qu'à Thomas Lubanga, tu sais qu'il y a eu même des rumeurs plus folles qui ont dit que le gouvernement en place a corrompu la CPI pour qu'on puisse cacher les documents confidentiels, parce que dedans, si on les mettait sur la place publique, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber dans ce gouvernement. Mais aujourd'hui, le procureur, les juges auront ces documents confidentiels en leur possession pour juger Thomas Lubanga. Mais je me dis, c'est pas. La CPI n'est qu'au début de ces procès, de ces travaux.
Donc, elle n'est pas une justice,
je ne pense pas. Attendons voir. On fera peut-être les bilans de la CPI dans 10 ans ou dans 15 ans pour voir si réellement ils s'arrêtent aux vaincus.
Merci beaucoup, Claudine Mbombo. Le 30 juin, la RDC a célébré les 48 ans de son indépendance. À cette occasion, le chef de l'État s'est déplacé à Kananga-Okassai occidental pour présider une cérémonie officielle à laquelle étaient conviés non seulement des officiels congolais de haut rang, mais aussi des envoyés spéciaux de certains pays étrangers. C'est le cas de la Belgique qui s'est fait représenter par les présidents de deux chambres du Parlement belge. À ce sujet, écoutons le chef de l'État à l'occasion de son discours adressé à la nation le lundi 30 juin dernier.
Mes chers compatriotes, l'heure de la reconstruction et du développement a sonné. Les priorités étant connues et les financements mobilisés, les premiers coups de cloche ont été donnés. Le parti du lancement des grands travaux a ainsi été tenu. Reste à tenir ceux de l'achèvement de l'ouvrage et de leur bonne gestion. Et pour ce faire, la mobilisation et l'engagement actif de chacun de nous sont indispensables. J'en appelle donc, une fois encore, à un sursaut moral et à une politique de tolérance zéro contre tous ceux qui enfreignent les lois de la République et décrédibilisent nos institutions. Pour ma part, je ne m'accorderai aucun répit tant que la vie quotidienne du Congolais moyen demeurera précaire et ses besoins primaires insuffisamment couverts. Cet horizon est certes lointain, mais il est nullement hors de notre portée.
Voilà, rendons-nous une fois de plus à Tshikapa au Kassai occidental, d'où intervient notre confrère André Romain Kambaladilolo. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein de KHRT, Kassai Horizon Radio-Télévision, station de Tshikapa au Kassai occidental. Quel bilan faites-vous des 48 ans d'indépendance de la RDC? C'est globalement positif ou globalement négatif?
Oui, merci Claude. Il est vraiment difficile de faire le bilan trop exact de ces 48 ans, dire que c'est positif avec le niveau de vie du Congolais moyen actuellement, ce qui est un leurre. C'est pas vrai. Le positivisme, je ne crois pas, tant que trop de choses restent à faire. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de tous ces contrats qui sont signés pour le développement, pour le démarrage de chantier, ainsi de suite. Mais n'ayons pas la mémoire courte ou faible. Vous savez, à l'époque du septennat du social, ça a été de même. On a vu dans ces pays plusieurs engins qui ont été encore amenés, à Canada même où le chef de l'État a dû faire le discours pour le 48e anniversaire. Je me souviens que plusieurs Renault, des Hino, des tracteurs, des fichiers de cela sont restés dans le jardin de l'office de route. C'est pour vous dire que c'est très difficile de dire que c'est positif. À 48 ans, dans 48 ans bien entendu, le Congolais ne s'est pas encore remis à un niveau qui donne satisfaction à cette heure qu'il est Claude.
Donc vous voulez dire par là que vous doutez même de la sincérité des propos du chef de l'État qui dit que l'heure de la reconstruction a sonné et que le pari est lancé, donc il reste à tenir ce pari. Il appelle tout le monde à se mobiliser. Donc vous n'êtes pas sûr des propos du chef de l'État qui n'est pas tenir au fait cet engagement à reconstruire le pays et que, comme il a dit lui-même, tant que les conditions sociales des Congolais ne seront pas améliorées, il ne se donnerait pas de répit.
Non, je ne parle pas personnellement à l'encontre du propos du chef de l'État, mais ce que je vois, c'est quoi? L'heure a sonné, c'est vrai. Tous les efforts à ce niveau sont alloués, vraiment. Il a fait des très bons actes, il a posé des actes louables. Mais je me dis que
la suite de la chose. Mais les engins même ne vous rassurent pas, les engins chinois. Il me semble que ça ne vous rassure pas.
Nous ne sommes pas à notre première phase pour les engins. Là, il faut être clair, Claude, c'est comme je l'ai dit, vers les années 90, de 80 vers 90, on en a vu dans ce pays. J'ai parlé des contrats qui ont été signés avec le français. Il y a eu des bennes de marque Renault, Lino, des tracteurs de tout qui sont arrivés, ont été remis à l'office de route dans différentes provinces. Mais si vous allez dans ces mêmes provinces, aujourd'hui, on n'a pas de route. C'est vrai que l'ère
de la reconstruction actionnée, le premier coup de pioche a été donné. Alors, quitte à ceux qui gèrent les différents embranchements et les différentes étapes de ces grands événements, de se refaire une idée d'un Congolais qui a le souci de développer le Congo.
Merci beaucoup.
Voilà, en quelque sorte. Oui, vous dites.
Merci beaucoup, André Romain Kambala. Claudine Mbombo, je rappelle que vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Observateur, paraissant ici à Kinshasa. Vous avez suivi André Romain Kambala Dilolo. Il dit que le bilan est globalement négatif, beaucoup reste encore à faire, et que même la présence dans un Chinois ne rassure pas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on reçoit des engins dans ce pays. L'Office des routes en a aussi reçu, d'après lui, ces engins dorment encore dans les différents jardins à travers le pays, mais il n'y a pas de route. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il a totalement raison, mais maintenant nous devons changer de tendance. Nous devons réfléchir autrement. Moi, je ne vois plus les dirigeants. Je vois maintenant plutôt les Congolais lui-même. Nous devons nous mettre au travail. C'est pas parce que Kabila vient inaugurer, je ne sais pas, la route numéro 1, nationale numéro 1, Bandundu Kinshasa. Une semaine, un mois après, quels sont ceux qui sont engagés à travailler sur cette route?
Est-ce que, après l'inauguration des travaux, est-ce que les travaux se font réellement ou dès que le président de la République tourne le dos, les gens aussi se reposent? Vous, les journalistes, vous allez sur le terrain.
Justement, c'est ça la faute même de nos journalistes. On vient, on crie, Kabila fait ceci et cela. Un mois après, passons pour voir ce qui s'est fait justement. Les Congolais ne travaillent pas, Claude. Maintenant, voyons-nous nous-mêmes. Laissons les dirigeants faire la politique et que les Congolais se mettent au travail. On ne travaille pas.
Parce que ce sont les Chinois qui vont développer ce pays. D'accord.
Justement, ce ne sont pas les Chinois. Ils ont maintenant quelqu'un arrose son jardin derrière sa maison. Il appelle une caméra. On vient filmer. On dit c'est dans le cadre des 5 chantiers. Entre nous, soyons quand même sérieux.
Merci beaucoup, Claudine. Est-ce que vous partagez le même point de vue, Thierry Lédica? Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Canal King, une chaîne de télévision proche du MLC.
Non, je suis complètement d'accord avec mes deux confrères. Pourquoi? Parce que 48 ans après, nous sommes nulle part. Il faut regarder d'où nous venons en 60 et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Je n'ai pas à vous dire ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Peut-être pour ceux qui nous suivent en dehors du Congo ou qui nous ont mis leur pied ici, c'est de l'embouteillage tous les jours. Les gens mangent très difficilement, les gens ne savent pas se soigner, les universités n'existent pas. Tout ce que le blanc nous avait dit en 60, on a tout détruit. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la difficulté avec le 5 chantier du chef de l'État, je ne sais pas si c'est du chef de l'État ou bien c'est de nous tous congolais, c'est là déjà une difficulté. La deuxième, c'est quoi? C'est que je me sens plus dans une campagne médiatique, une campagne électorale qui est dans des actes. Pourquoi on n'est pas dans des actes, comme disait tantôt Claudine? Les Congolais, nous ne sommes pas encore appropriés ces grandes idées-là du chef de l'État et de l'AMP qui est au pouvoir actuellement. Ce que le pouvoir en place doit faire, c'est de quitter le camp de manifestations, de slogans, pour arriver au niveau de faire approprier toute la population congolaise ces belles idées-là.
Que doit faire le Congolais?
Les Congolais doivent s'approprier les 5 chantiers, mais pour que les Congolais puissent l'approprier, il faut que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont eu ce
pouvoir. Comment ils doivent l'approprier, les 5 chantiers?
Notamment lors de notre travail. C'est bien beau de prendre des Chinois. Jusqu'à présent, j'ai suivi une discussion hier dans le contrat. Il n'est pas spécifié comment est-ce que nous, Congolais, nous allons prendre du travail grâce aux Chinois. Il me semble que tous les modèles de la Chine, tous les ingénieurs seront chinois. De l'importation, tout simplement. Nous, Congolais, c'est une histoire qui pourra nous passer par la tête. Et puis, deuxième chose, par rapport aux chantiers, nous avons vu avec Pompe, le chef d'État du PN, je suis passé par là, ça n'avance presque pas. C'est ça la difficulté. Donc, c'est comme si le chef de l'État avait une difficulté avec son image et on prend les 5 chantiers comme argument pour sonner l'image. C'est tous les jours à la télévision qu'on en parle. J'ai vu même un clip qui a commencé sur les 5 chantiers. Donc, on n'a pas encore quitté les stades de la campagne électorale pour le stade du travail. C'est ça, d'accord.
Et ne pouvons-nous pas donner un peu de chance quand même à Joseph Kabila et à son équipe, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore commencé, mais on dirait que certaines personnes, des juges, disons, prédisent déjà un échec de la reconstruction qu'ils vont entamer avec l'aide de l'apport chinois, des milliards de dollars chinois.
On m'a appris que vaut mieux le début d'une chose, vaut mieux le début que la fin. Il me semble qu'on a beaucoup de difficultés pour partir et la fin risque d'être difficile. D'ici 2011, on verra. Si ça marche, j'applaudirai moi.
Pudine, en 30 secondes.
Oui, en 30 secondes, juste pour dire, il faut qu'on arrête un chronogramme à ces chantiers-là. Nous prenons un chantier, peut-être les routes. On s'est dit, dans 2 ans, nous allons réaliser 20 km de route, par exemple. 20 000 km de route. Et nous allons constater cela. Pas des chantages.
Merci beaucoup. C'est par vous, Claudine Bombo, que nous terminons cette tribune de la presse. Merci à vous, Claudine. Merci à Thierry Lévica et à André Romain Kambala. Jean-Claude Tunga Kamanga a réalisé cette tribune de la presse. Elle a été mise en onde par Alain Goy au nom de toute l'équipe de Dialogue en Congolais, Kéline Kouté, Kitim Poutou, Guy Roger Nampala et Guy Maté. Nous vous souhaitons bon week-end. Au revoir et à lundi.
Oh, Kati, oh, Kati.